J'avais annoncé la semaine dernière que l'étude diplomatique des tablettes de traité devait comporter deux volets. Nous avons procédé à l'étude des caractères externes et il nous reste à faire l'analyse des caractères internes de ces documents, autrement dit la façon dont leur texte est organisé et rédigé. À ce sujet, je dois rappeler l'existence d'un livre aujourd'hui un peu oublié, celui de Guy Questemont, qui s'appelle donc « Diplomatique et droit international en Asie occidentale », qui est consacré à la deuxième moitié du deuxième millénaire. C'est une application extrêmement rigoureuse et systématique des techniques diplomatiques développées par les médiévistes. Je dirais que le seul reproche qu'on peut faire à cet ouvrage, c'est sans doute d'avoir été trop systématique. Et le résultat, c'est qu'il a été peu lu et peu utilisé, car il aboutit à une typologie excessivement complexe. Mais néanmoins, la démarche est intéressante et on souhaiterait, dans certains cas, que certains auteurs aillent vers plus de rigueur sans atteindre forcément le degré de sophistication de ce travail. Je vous propose donc, dans un premier temps, de voir la structure générale des textes et, dans un deuxième temps, nous allons analyser le cœur de ces traités, à savoir les clauses. Aujourd'hui, on commencera l'étude des clauses de nature politico-militaire que nous poursuivrons la semaine prochaine avec celles qui portent plus précisément sur les relations commerciales. L'étude de la structure générale des textes, s'agissant des traités, bute souvent sur un obstacle, à savoir le fait qu'ils sont écrits sur des tablettes de grande taille et ils nous sont donc généralement parvenus de manière très incomplète. Pour deux raisons. D'abord, comme on l'a vu à propos des Vassal Treaties de Nimrud, parce que les tablettes peuvent avoir été détruites volontairement, mais aussi tout simplement en raison d'un simple phénomène physique, plus les tablettes sont grandes et moins elles ont de chances de rester intactes, comme le montre le triste état d'un des traités découverts à Tel Eilan en 1987. Avant de rentrer dans l'analyse même de la structure des textes, il faut poser un préliminaire, la question de savoir si ces traités étaient pourvus d'un titre ou pas. La question se pose en bonne partie en raison de ce que nous trouvons dans les textes d'Ebla. On voit en effet à plusieurs reprises l'expression « Dub Nidba 2 I3 Gish », autrement dit littéralement « la tablette d'offrande d'huile », et puis ensuite vous avez des toponymes « tablette d'offrande d'huile de Doulou et Ebla » ou encore « tablette d'offrande d'huile de Martou et Ebla ». Et manifestement, il s'agit donc de la désignation des tablettes de traité en fonction du contenu même de ces tablettes. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que pour Aret 13-21, l'indication figure comme on s'y attend à la fin du texte. En revanche, dans le texte Aret 13-20, eh bien, qui est donc un traité entre Martou et Ebla, cette phrase figure au début du texte. Et donc, elle correspond, dans nos habitudes, à un titre. Vous savez que, dans l'Orient ancien, l'usage des titres est quelque chose qui est inconnu. Une œuvre est désignée par son incipit, c'est-à-dire par ses premiers mots. Et vous savez sans doute que la coutume subsiste encore aujourd'hui au Vatican, où les encycliques pontificales sont citées par les premiers mots du texte. Souvent en latin, mais pas forcément. Ça peut être en allemand, hein, mit brennender Sorge, au moment de la montée du fascisme, par exemple. L'idée même donc qu'il puisse y avoir un titre est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Mais c'est vrai que on a cette tablette à 13-20 où ça figure au début du texte. En revanche, on doit dire que le traité entre Ebla et Abarsal, sur lequel on reviendra la semaine prochaine, ne comporte aucune rubrique, pour prendre un texte, un terme un peu plus neutre, aucune rubrique ni au début ni à la fin. Alors, si on passe maintenant du troisième millénaire au début du deuxième, eh bien, se pose le cas du texte OBTIV 326. À la fin du texte, aux lignes 52 à 54, on a, comme on peut s'y attendre, l'identification du document par lui-même. Et donc, vous voyez qu'on vous dit « Tzimdat sumunum rim » ou « Amidashur »,« Pacte tzimdatum » de sumunum rim, qui est le roi d'une première ville, et de Hamidushur, qui est le roi d'une deuxième ville. Mais le problème, c'est le début. Samuel Gringus, qui avait édité le document, avait restauré la première ligne qui, vous le voyez, est extrêmement cassée en Tzimdatum, Sha, Shadlash ou Neriptim, autrement dit, pacte de Shadlash et Nereptum, Shadlash et Nereptum étant les deux villes dont Sumunum Rim et Hamidushur étaient respectivement les rois. Et cette restitution pose problème. J'avais écrit dans le volume à la mémoire de notre collègue hongrois Vargas qu'on ne peut pas accepter cette restauration pour deux raisons. Et j'avais dit d'abord parce que faire commencer un texte par un tel titre est manifestement un anachronisme. Et aujourd'hui, je me mords les doigts, la langue, parce que si on considère la situation à Ebla, cet argument-là ne vaut plus, puisqu'on voit qu'une sorte de titre est attesté à Ebla. En revanche, le deuxième argument que j'avais donné me semble toujours tenir, à savoir qu'un pacte tzimdatum, comme tous les traités connus pour l'époque paléo-babylonienne, engage des rois et pas des royaumes, et il y aurait à cet égard une sorte de contradiction entre le début du texte qui mentionnerait un accord entre deux villes, alors que la fin mentionne, comme on l'attend, le fait qu'il s'agit d'un accord entre deux rois. Et donc, je dirais, entre un passage bien conservé, les lignes 52 à 54, et un passage mal conservé, comme la première ligne, il me semble qu'il faut résolument choisir en fonction du passage bien conservé. Et donc, tous les auteurs qui se sont succédés à la suite de Gringus, notamment Altman dans son livre à la page 69, ont écrit « Le traité est présenté comme un accord entre deux villes et non pas entre leurs rois ». C'est faux, puisque à la fin, il est question des rois, et qu'au début, au contraire, c'est tellement cassé qu'on ne peut pas avoir de certitude. Donc, il me semble que les textes d'Ebla restent quelque chose d'étrange, surtout le seul où c'est au début, mais en tous les cas, pour l'époque paléo-babylonienne, on ne doit pas considérer qu'il y a un titre. Alors, l'organisation générale des textes, elle varie bien entendu en fonction des périodes, et donc j'ai repris les grandes phases qu'on a déjà utilisées précédemment pour présenter la documentation. Je dirais pour le troisième millénaire que les trois textes d'Ebla sont si différents qu'on ne peut pas arriver à une typologie. Je remarquerai simplement que dans le traité entre Ebla et Abarsal, qui est Aret 13, numéro 5, à plusieurs reprises, on a la phrase « Ainsi parle le roi d'Ebla à Abarsal » et ensuite un discours à la première personne. Et ceci nous fait déjà penser à ce que nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire la rédaction des traités hittites qui emploie une technique un peu semblable. Mais ça ne figure pas au début du texte, alors que dans les traités hittites, au contraire, ça commence comme ça. Deuxième point à souligner, dans ce traité entre Ebla et Abarsal, les clauses sont souvent réciproques, mais je n'en donne pas le détail maintenant parce qu'elles sont essentiellement de nature commerciale et donc je les réserve pour la semaine prochaine. Si l'on passe maintenant à la première moitié du deuxième millénaire, à l'époque paléo-babylonienne, on a déjà vu maintenant clairement qu'on a en général deux textes indépendants et unilatéraux, puisque chaque roi s'engage par rapport au texte que l'autre lui a envoyé, selon la procédure que nous avons décrite les deux semaines passées. Malheureusement, il n'y a aucun cas où on a les deux documents, tout simplement parce qu'il faudrait une chance assez extraordinaire pour que ce soit le cas. Il faudrait tomber sur deux archives exactement contemporaines dans deux villes différentes et tomber exactement sur la même couche. Ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Ces grandes tablettes, comme elles sont désignées par les anciens eux-mêmes, ont une structure tripartite. Nous avons d'abord la liste des dieux par qui le roi jure, et à chaque fois, vous avez l'impératif du verbe tamum qui veut dire jurer. Donc on dit, mettons, Enlil Tama, jure par le dieu Enlil, Sin Tama, jure par le dieu Sin, Shamash Tama, jure par le dieu Shamash, etc. Après cette liste des dieux, nous avons le cœur même de l'accord, c'est-à-dire les clauses par lesquelles le roi qui jure s'engage. Et la troisième partie, ce sont les auto-malédictions, c'est-à-dire les malédictions que celui qui jure appelle sur lui-même au cas où il ne respecterait pas son engagement. Et le cours du 15 juin sera en grande partie consacré à ces auto-malédictions. Si je reviens une seconde sur la rédaction des clauses, on a un certain nombre de formulations pour les débuts de clauses qui sont les suivantes. « À partir de ce jour, tant que je vivrai », etc. Ou encore « À partir du jour où », et vous avez la suite. On trouve aussi « Quand », alors par exemple « Quand tel roi fera appel à moi pour que je lui envoie des troupes de secours, eh bien je jure que je lui enverrai ses troupes, etc. » On peut avoir aussi un début de clause avec simplement « Achoum » relativement au fait que, ou bien encore une simple conditionnelle à l'optatif. « Si telle chose se produit, alors, etc. » Ces textes d'époque paléo-babylonienne posent le problème de l'identification des parties. Généralement, le roi qui jure mentionne plusieurs fois dans le cours du texte le nom de celui à qui il prête serment. Donc, je jure que lorsque Zimrilim, fils de Yardounlim, roi de Mari et du pays bédouin, fera appel à moi, je ferai ceci ou cela. Mais le nom de celui qui jure n'apparaît pas forcément. Et je voudrais voir ici l'exemple de l'engagement de Zimrilim de Mari envers le roi d'Eshnouna Ibalpiel II. Voici un exemple de ce paragraphe. « Lorsque les armées d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi d'Eshnouna, mon père, iront en expédition là où il convient, la troupe de Mari, la troupe des Bédouins, la troupe du Souroum, et puis là, il y a une cassure, je jure que je ne les enverrai pas après leur avoir donné des instructions comme suit, ces instructions étant ne vous mêlez pas de ces histoires-là, restez en retrait et surtout ne combattez pas avec ferveur. » Vous voyez que dans ce passage, mais c'est le cas à peu près partout, le roi à qui on prête serment est identifié comme un tel, fils de un tel et roi de tel royaume. Mais dans le cas du traité conservé par la tablette A361, c'est par déduction seulement que nous pouvons comprendre que le roi qui jure est Zimrilim, parce qu'il est fait mention de la troupe de Mari, la troupe des Bédouins et la troupe du Souroum, c'est-à-dire les trois composantes principales de l'armée du roi de Mari. Alors ce qu'on ignore, c'est si Zimrilim était explicitement mentionné ailleurs dans le texte, parce que, comme vous le voyez, on n'a que la moitié, et encore pas tout à fait, d'une grande tablette. Par conséquent, il n'est pas impossible que son nom ait figuré quelque part, mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le vérifier. Il arrive que l'identité de celui qui jure soit précisée à la fin de la liste des dieux qui ouvre le texte, avec une phrase rédigée au passé. C'est le cas, notamment, des deux petites tablettes de Mari. Le serment du roi de Babylone à Zimrilim lorsqu'ils ont fait alliance contre les lames, qui a été publié par Jean-Marie Durand dans Les Mélanges Stèves. Donc on a une liste réduite au minimum. Jure par Shamash du ciel, jure par Adou du ciel. Et ensuite, cette phrase, Hammurabi, fils de Sinmoubalit, roi de Babylone, a juré par ses dieux, et le verbe au passé, a juré, est restitué, mais on est à peu près certain de cette restitution sur la base de la deuxième tablette où le verbe figure. Mais si on suppose que cette tablette est précisément rédigé de la même manière que la suivante A96, alors ça nous donne une idée pour restituer plus complètement A96 par rapport à ce qui avait été fait dans son édition par Francis Johannes dans les Mélanges Garelli. Je vous propose de restituer à la première ligne l'impératif du verbe jurer, tama, et si vous regardez bien, vous avez tout à fait la place, vous avez le nom du dieu Shamash ici, ensuite chat, donc du, ensuite le chat de chamé, et puis ensuite la place pour mé et à la fin de la ligne, il peut y avoir très bien les deux signes ta, ma, et par conséquent, on aurait exactement la même chose que dans le précédent, hein, jure par Shamash du ciel, jure par Adou du ciel, ici on aurait simplement jure par Shamash du ciel, et ensuite Atamroum, fils de Waratsin, roi d'Andarig, a juré, et vous voyez que ici le verbe au passé itma est conservé complètement. Donc ces deux petites tablettes finalement auraient exactement le même type de rédaction. Si l'on en vient maintenant au traité découvert à Tel Eilan, eh bien on a un cas, le traité numéro 3, où après la liste des dieux, c'est seulement le nom du roi qui jure qui est noté et pas celui à qui l'on prête serment. Donc vous avez la liste des dieux, jure par Anoum, jure par... Et puis vous avez toute une série de divinités. Et à la fin, on vous dit, par ces dieux, Tilabnou, fils de Dariépour, roi du pays d'Apoum, ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays bédouin tout entier ont juré. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que le serment est prêté non seulement par le roi, à nouveau identifié par son nom, le nom de son père et son titre, mais aussi toute la population du royaume qui est résumée en ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays bédouin tout entier. L'autre caractère remarquable de ce traité numéro 3, c'est qu'à la fin du texte, et seulement à la fin, on a l'identification complète des parties. Et donc le texte dit ceci, « Ayamtsi Radnu, fils d'Asdinérim, roi de Karat, au roi ses frères, Aya Malik, aux anciens, à ses fils, ses serviteurs, sa troupe, son pays, ses villes, et son royaume depuis Nawar jusqu'à Nawar. » Donc là, c'est les gens à l'égard de qui le serment a été prêté. Et ensuite, on retrouve la même liste. Tilabnou, fils de Dariépour, roi du pays d'Apoum, ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays d'Apoum tout entier ont prêté ce serment par les dieux. Donc à la fin, on voit bien les deux, ceux envers qui on s'engage et l'identification également de ceux qui s'engagent. Au vu de ce dossier, il est nécessaire de revoir le début d'un autre traité, qui est le traité de Tel Eilan numéro 1. Et pour ceux qui participaient à mon séminaire en janvier et février, je dois dire que j'ai progressé par rapport à ce que nous avions vu à l'époque. Et donc là, je vais être un tout petit peu plus technique pendant quelques minutes, puisque j'ai besoin de donner le détail des arguments qui font que j'ai changé d'avis par rapport à ce que nous étions arrivés à trouver en séminaire. Jesper Heidem, qui a édité le texte, avait vu qu'après la liste des dieux figurait le nom des deux rois à qui le serment était prêté. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais la fin de la liste des dieux est abîmée et il me semble qu'on peut très bien y lire le nom du roi qui jure. Donc, on aurait 13 lignes avec nom de Dieu plus l'impératif jure, jure par Enlil, etc. Et ensuite, on aurait ceci, Adnou Rabbi, fils de, et puis c'est cassé, roi de Katara, a juré à Karnilim, fils de Mouti Adou, et Raya Aboum, fils de Turum Natki, leur fils, leurs serviteurs, leurs troupes, leurs troupeaux et leur royaume. Et ma proposition repose sur ceci. Quand on regarde bien, eh bien, ici, après le dernier dieu identifiable, on voit un signe bi qui est très clair, et devant, ça pourrait très bien être le signe ra. Donc ce serait la fin du nom de Ratnourabi. À la ligne d'après, au lieu de Dingirmesh Annutim avec un tim impossible, le signe qu'on a, c'est très clairement la fin d'un signe qui. Et donc, le fait qu'on ait. C'est le déterminatif des noms de lieux qui suit le nom de la capitale, qui est la ville de Katara. Donc, ceci marche très bien. Et quand on regarde à la fin, le ma est clair, mais du signe qui précède, on n'a qu'un vertical. Et donc, il est impossible de décider entre tama, jure, ou itma. Et par conséquent, donc, la restitution est très possible. J'étais tout content d'avoir découvert ça. Et en arrivant dans la salle à côté, tout à coup, j'ai été frappé par le fait qu'on n'avait vraiment pas de chance, parce que l'étude historique nous avait conduit à imaginer qu'il y avait deux rois possibles comme signataires de ce traité, Hadnourabi, le roi de Katara, et l'autre candidat, c'était Hammurabi, le roi de Kurda. Et donc, si je reprends, eh bien malheureusement, Rabi, ça peut être la fin de Hadnourabi, mais ça peut être aussi bien la fin de Hammurabi. Et à la ligne d'après, du nom de la capitale, il ne reste que le déterminatif postposé. Donc on peut restituer Lugal-Kurda aussi bien que Lugal-Katara. Et donc, contrairement à ce que j'avais cru, eh bien mon idée ne permet toujours pas de résoudre l'identité, de trouver l'identité du roi qui a ainsi prêté serment. Jean Bottero qualifiait ce genre de cassure de la manière suivante, le démon veille. Et parce que ben voilà, c'est cassé juste là, si ça avait été cassé deux signes plus loin, on aurait su de qui il s'agissait, mais là, on ne peut pas savoir. Donc, je suis à peu près certain qu'on a le nom du roi qui jure à cet endroit-là, mais on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Au total, donc, vous voyez que les traités d'époque paléo-babylonienne ont toujours cette structure tripartite. La différence entre les petites tablettes et les grandes tablettes, c'est qu'il n'y a pas de malédiction à la fin des petites tablettes, alors qu'elles occupent un espace considérable à la fin des grandes tablettes. En revanche, si on rentre dans les détails, on voit qu'il y a des variantes, mais ceci nous montre simplement que les scribes n'avaient pas de modèle fixe à suivre dans tous les cas. On est, je dirais, dans une période d'expérimentation. Et ceci est intéressant parce que, comme toujours, lorsqu'il n'y a pas de formulaire figé, ça permet aux scribes, en réalité, de mieux rendre compte des situations. Alors que lorsqu'on a des formulaires très stricts, il faut absolument, pour les scribes, arriver à formuler la transaction en fonction des formulaires qui existent. Dernier point pour l'époque paléo-babylonienne, dans certains textes, on trouve la date de conclusion de l'accord. C'est sûr, à la fin du traité de Leylan numéro 3, vous avez le mois en fonction du calendrier local, mois de Tamrihum, le jour qui est le premier, et ensuite vous avez l'éponyme qui permet d'avoir l'année, qui est Amer Ishtar. Dans le cas du traité numéro 2, on a une sorte de codicille à la fin du texte qui est très cassée. Personnellement, je suggère qu'il y ait également la date. Il ne reste qu'un A au début, mais je pense qu'il pourrait y avoir le nom du mois et le jour, et ensuite un éponyme qui pourrait être Ariaya ou Belia éventuellement. Et ensuite, il y a un espace en épigraphe, et après cela, il y a une phrase qui est parfaitement claire. Tu as juré, sous-entendu ce qui précède, à Mutiya, fils de Halun Piumu, roi du pays d'Apoum. Jesper Heidem a commenté ce passage en disant « Les signes de ce codicille ont été imprimés dans une tablette plus sèche que le reste du texte. » Et ceci, par conséquent, pourrait bien indiquer que on a affaire à quelque chose qui a été rajouté après que la cérémonie ait été accomplie. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, mais évidemment, ça pose un problème considérable par rapport à ce que nous avons déjà vu la semaine passée, c'est à savoir le statut même de la tablette. La phrase étant rédigée à la deuxième personne, elle s'adresse à celui qui a juré. Ce qu'on attendrait par conséquent, c'est que cette tablette ait été ramenée chez lui par le roi qui a juré, et nous avons vu que pour des traités plus tardifs, de la deuxième moitié du deuxième millénaire, il y a l'obligation de relecture régulière. Et donc, logiquement, cette tablette, avec cette souscription, elle devrait se trouver chez le roi qui a juré. Or, elle a été découverte à Tell Eilan, qui est la capitale du pays d'Apoum, donc dans le palais occupé par le roi Mutiya, qui est le roi envers qui on s'engage. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais comme toujours, il faut poser les questions, parce que le jour où nous aurons la réponse, si nous ne nous sommes pas posé la question, nous ne verrons pas que nous avons la réponse à une question que nous n'avons pas posée. Je terminerai pour l'époque paléo-babylonienne par l'examen de deux cas particuliers. Il y a deux textes, en effet, qui ne correspondent pas du tout à cette tripartition, liste des dieux, clauses et malédictions, que nous venons d'examiner. Le premier, c'est à nouveau le traité Tsimdatum entre Sumunumrim de Shadlash et Hamidushur de Nereptum. Alors, le genre auquel le texte appartient ne peut pas être mis en doute, puisque, nous l'avons vu, le texte s'auto-désigne comme pacte Tsimdatum. Mais, contrairement aux autres textes connus, il ne comporte que des clauses. Il n'y a pas de liste de divinités au début, il n'y a pas de malédiction à la fin. Et en plus, on a une rédaction bilatérale. Donc il y a les engagements de l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un qui sont mêlés. Alors, ma réaction, c'est de dire il faut sans doute mettre cela sur le compte de la date de ce texte, qui est antérieure au XVIIIe siècle. Donc ça fait de ce texte un des plus anciens connus. Et ce serait un peu plus tard que la formule classique aurait été mise au point. Mais ceci, bien entendu, reste à confirmer. Et ce qui m'ennuie dans le raisonnement que je viens de tenir, c'est que, en disant cela, je scie la branche de l'arbre sur laquelle je m'étais assis tout à l'heure, puisque la question du titre, qui était quelque chose d'inattendu, elle peut être posée exactement dans les mêmes termes, en disant « puisque ce texte ne correspond pas à ce qu'on a par ailleurs, pourquoi est-ce que vous refusez énergiquement qu'il y ait un titre au début ?» Et je m'accroche au fait que, toujours cette idée, il n'y a que les villes qui soient mentionnées là, et pas les rois, alors qu'à la fin, il y a les rois. Mais vous voyez donc qu'on a encore beaucoup d'hypothèses sur certains points. Il ne faut pas chercher à gommer ce fait-là. Alors, il y a un deuxième texte pour lequel les choses sont heureusement beaucoup plus claires, et c'est quelque chose de tout à fait intéressant, donc je vais y consacrer un petit peu de temps, mais le document est vraiment passionnant. C'est un texte qui a été découvert à Lalar, donc Tel Hachana, par Léonard Woolley en 1939. Il porte le numéro 456, mais il faut faire attention parce qu'il n'a pas été publié par Wiseman dans le volume des textes de Al-Alar, et il s'en explique dans l'article du Journal of Cuneiform Studies qui est paru un peu après son livre, en 1958, tout simplement parce que cette tablette posait des problèmes de conservation et que, vu son intérêt, il a préféré attendre que les conservateurs aient restauré la tablette au maximum plutôt que de faire une édition préliminaire qui aurait été éventuellement fautive. Et le texte a été republié par Dietrich et Loretz il y a une douzaine d'années dans la série d'articles qu'ils ont consacrés aux textes paléo-babyloniens d'Al-Alar, donc ceux découverts dans la couche 7. Beaucoup d'auteurs se sont intéressés à ce document, et selon Altman, ce texte reflète une autre tradition dans la façon de rédiger les traités, parce qu'il ne correspond absolument pas à ce qu'on connaît par ailleurs. Il s'agit en effet du texte par lequel le roi d'Alep Abba-El, qui est le fils et successeur d'Amurabi sur le trône du Yamrad, donc le Amurabi d'Alep, à ne pas confondre avec Amurabi de Babylone, donc ce roi d'Alep Abba-El et son frère Yarimlim échangent des territoires. Et on a dans le texte un rappel historique qui nous explique qu'à un moment donné, Yarimlim résidait dans la ville de Irité, qui est à l'est de l'Euphrate. Mais cette région s'est révoltée contre son frère, le roi d'Alep, et donc le roi d'Alep a détruit toute la région. Et à la suite de cela, Yarimlim s'est installé à Al-Alar. Et du coup, les domaines que Yarimlim possédait à l'est d'Alep ça lui posait un problème, puisque désormais, il en était beaucoup plus éloigné, et donc le roi d'Alep lui propose, à ce moment-là, de faire un échange. Il lui donne des domaines qui sont beaucoup plus proches de la ville d'Al-Alar, et en échange, l'autre lui donne les domaines qui sont plus proches d'Alep. Ce texte a été inclus comme traité dans le volume de Kitchen et Lawrence sous le numéro 29. Il est vrai qu'il contient un rappel historique et il contient aussi la mention d'un serment par Abba-El accompagné d'un geste symbolique. Et le passage se trouve ici. Abba-El se trouve avoir juré un serment par les dieux à Yarimlim et il a coupé le cou d'un agneau. Alors, cet agneau coupé, ça a tout de suite rappelé aux auteurs les annons des textes de Marie. Et donc, tout de suite, les gens disent, ben voilà, c'est un traité. Le problème, c'est que, par ailleurs, rien ne correspond à ce qu'on attendrait pour un traité. Pas de liste de dieux, pas de malédiction. En revanche, il y a des témoins comme dans un texte juridique habituel. Et donc, en réalité, il semble bien que ce texte doive être considéré comme un contrat d'échange, et c'est dans la typologie des textes juridiques, c'est quelque chose qui est bien connu, qui ressemble beaucoup plus donc à ce qu'on appellerait du droit privé que à quelque chose relevant du droit international, comme ce serait le cas pour un traité. Et c'est la conclusion de Jacob Lauinger dans le livre qu'il a tout récemment publié, où il reprend l'étude de ce texte et de toute une série d'autres dossiers apparentés. Et je vous donne sa conclusion à propos précisément de la question de ces territoires qui sont échangés et de la conception du sol et des frontières. Il nous dit ceci, il serait peut-être utile de penser au domaine de Yarimlim, donc celui d'Al-Alar, moins comme un royaume client ou vassal, et davantage comme une sorte de province, ou même comme la propriété privée d'un individu. Et si vous acceptez cette analyse, alors du coup, en effet, on retombe dans le cadre d'un échange. Je dois dire que j'ai été très soulagé de cette analyse de Lauinger, parce que, par ailleurs, dans le texte, la descendance, aussi bien du roi d'Alep que de Yarimlim d'Al-Alar, est impliquée. Et ceci allait en droite ligne contre ce que j'avais écrit dans la rencontre de Münster, un article que j'ai souvent cité, dans lequel j'insiste sur le caractère personnel des alliances à l'époque paléo-babylonienne qui n'engagent pas encore les descendances. Donc si vous considérez que c'est un contrat de droit privé, c'est absolument normal que les descendances, c'est-à-dire les héritiers, soient liés. Et donc, je dirais que cet argument, Lauinger ne l'a pas utilisé tout simplement parce que mon article n'est paru qu'en 2014, donc il ne le connaissait pas. Et je suis très content qu'il ne l'ait pas utilisé. Parce que s'il l'avait fait, ça aurait pu, aux yeux de certains, amoindrir son raisonnement en disant ben voilà, c'est le serpent qui se mord la queue d'une certaine façon, alors que pour des raisons totalement différentes, finalement, nous convergeons sur l'analyse de ce texte. Donc, contrairement à ce que la 90% de la littérature vous donne, ce texte doit être exclu de toute considération relative au traité. On passe maintenant à la deuxième moitié du deuxième millénaire. Un changement majeur pour les textes de cette époque-là par rapport à la période paléo-babylonienne qui précède, c'est le fait que la liste des dieux passe du début de la tablette à la fin, juste avant les malédictions qui peuvent être également complétées par des bénédictions. Donc il n'y a plus cette formule initiale « jure par tel dieu » que l'on avait avant, mais ça ne signifie pas naturellement qu'il n'y ait plus de serment. Il y a de nombreuses références internes dans le traité au serment qui est passé. Simplement, les dieux apparaissent comme des sortes de garants à la fin. Là encore, on y reviendra dans deux semaines. Le deuxième point qu'il convient de souligner comme différence avec la période qui précède, c'est que c'est seulement à partir de cette période-là qu'on distingue clairement les traités paritaires donc conclu entre deux rois de même puissance, des traités inégalitaires, c'est-à-dire des traités dans lesquels vous avez un roi plus puissant, comme on dit souvent un suzerain, qui impose plus ou moins les clauses à un roi moins puissant qu'on peut désigner comme son vassal. Alors, dans les traités paritaires, on peut faire une reconstitution théorique, parce que tous les textes n'ont pas forcément tous les éléments, en tous les cas, ils ne sont pas toujours conservés. Il y a généralement un préambule, il peut y avoir une déclaration d'intention, mais c'est quelque chose d'optionnel. On retrouve les clauses. Vous avez donc la liste des témoins divins qui arrive seulement après les clauses, et ensuite vous avez malédiction et éventuellement bénédiction. Dans les traités de type inégalitaire, c'est un peu différent, notamment parce que le préambule présente le suzerain comme celui qui a formulé le document. Et toute la suite du texte est donc rédigée comme un discours tenu par le suzerain à son vassal. Vous avez également, pratiquement toujours, un prologue historique. Alors, la question de la validité des informations contenues dans ce prologue historique a donné lieu à d'innombrables débats entre les historiens, parce que c'est là, bien entendu, où vous pouvez facilement avoir la tentation de réécrire l'histoire. Et donc, il faut prendre ces informations avec beaucoup de précautions, mais c'est quand même très intéressant. Vous avez ensuite les clauses, et puis la dernière, c'est généralement une clause relative à la tablette, son emplacement et son éventuelle relecture, et ça, on les a déjà vus, j'en ai parlé la semaine dernière. Et la dernière clause, donc, fait le lien avec la liste des dieux témoins et garants, et ensuite malédiction et ou bénédiction, comme dans les traités paritaires. Alors, pour donner un exemple de traité inégalitaire, pour le début au moins, vous avez ceci, « Ainsi parle mon soleil », je traduis littéralement, il y a des auteurs maintenant qui préfèrent dire « Sa majesté », peu importe, c'est la façon qu'a le roi hittite de s'auto-désigner, « Ainsi parle mon soleil, Mursili le grand roi, roi du pays de Hatti », et ensuite il s'adresse à l'autre roi, « Toi, Manapatahunta, ton père t'a abandonné, et tu étais encore un enfant, et Uratahunta et tes frères ont cherché à te tuer, etc. » Donc vous avez tout de suite après la première phrase le rappel historique qui donne le détail de ce qui a précédé la conclusion du traité. Autre différence essentiel pour cette époque, les traités égalitaires sont désormais formulés de façon bilatérale, avec quand même une exception et une exception de taille, c'est le fameux traité entre le roi hittite Ratusili III et le pharaon Ramsès II. En effet, on a deux versions de ce traité, l'une étant l'engagement du roi hittite à l'égard du pharaon, et l'autre le contraire, et ces deux versions ne sont pas identiques, et en particulier, toutes les clauses ne sont pas réciproques. Et ça, c'est très important, parce que dans ce cas-là, nous avons la chance d'avoir les deux côtés, contrairement à la situation de l'époque paléo-babylonienne. Et donc, on voit qu'il peut très bien se faire, dans des traités égalitaires, que les deux rois ne s'engage pas de manière complètement symétrique. On passe maintenant à la première moitié du premier millénaire, avec l'époque néo-assyrienne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, les traités de cette époque étaient désignés par les anciens comme AD. Et ce terme peut servir à décrire des situations à nos yeux assez différentes. En effet, les AD peuvent être des serments de fidélité imposés par le roi à ses sujets ou à des vassaux, par exemple au moment de la succession au trône. C'était le cas, rappelez-vous, des fameux vassal treaties d'Assaradon, lorsque le roi assyrien a installé Assurbanipal comme prince héritier en Assyrie et son frère Shamash-shum-ukin sur le trône de Babylone en 672, avec donc toutes ces tablettes découvertes à Nimroud, dont il a déjà été beaucoup question. Mais le terme de AD décrit aussi des traités en bonne et due forme, qu'ils aient été de type égalitaire, comme par exemple le traité conclu entre Assaradon et le roi élamite Urtaku en 674, ou bien le plus souvent inégalitaire. Dans la plupart des cas, en effet, le monarque assyrien représentait une puissance considérable et il présentait la conclusion du traité comme une faveur qu'il faisait à un autre roi moins puissant qui était venu, je cite, « saisir les pieds du roi », selon l'expression consacrée. Alors, il y a eu de nombreuses discussions sur la nature exacte de ce que recouvre le terme « AD » et sur son étymologie. Ici, un point de méthode, je me rappelle comment, dans ses cours du Collège de France, Emmanuel Laroche nous mettait en garde contre la conduite de beaucoup de ses collègues, et il avait en particulier les indo-européanistes dans le viseur. Il disait « l'étymologie, il ne faut pas commencer par là, il faut finir par l'étymologie. Il faut commencer par cerner le sens d'un mot contextuellement, et c'est seulement ensuite que l'étymologie peut venir et éventuellement expliquer le sens du mot. » Alors, en ce qui concerne le terme de « AD », eh bien, je citerai ce qu'a écrit à ce sujet Simo Parpola dans le volume consacré au traité d'époque néo-assyrienne. Il disait ceci, à la suite de Ignaz Gelb, « beaucoup de savants, depuis le début des années 60, ont pris les textes d'AD comme des pactes de loyauté jurés imposé par le roi assyrien à ses vassaux ou à ses sujets. Certains sont même allés jusqu'à prétendre que, finalement, tous ces textes sont simplement des serments, et non pas des traités, et non pas des pactes, ou quelque autre sorte d'accord formel entre deux parties. Et par Parpola de continuer, un regard plus attentif à tous ces textes, montre clairement, cependant, que les considérer tous comme des serments de loyauté ne marche tout simplement pas. Alors que certains d'entre eux, apparemment, comportent un serment, quelques-uns, voire les numéros 1, 5 et 13, sont de manière incontestable des accords bilatéraux entre deux souverains et, de ce fait, il s'agit de traités selon la définition moderne. Et c'est moi qui souligne ce dernier terme. Parce que on voit une fois de plus comment les meilleurs savants peuvent mélanger deux approches. L'approche que je qualifierais de hémique, c'est-à-dire celle qui reprend les catégories de la culture étudiée, et l'approche éthique, c'est-à-dire au contraire celle qui utilise les catégories modernes des savants. Et il me paraît difficile de mélanger les deux pour réfuter une approche et, au contraire, considérer que seule la seconde est valable. Personnellement, ce qui me paraît important dans ce débat, c'est de souligner que, en dépit des contextes différents dans lesquels les AD étaient conclus, les anciens Assyriens mettaient l'accent sur le point commun, à savoir le serment qui engageait celui qui le prêtait. Et cet élément leur paraissait manifestement plus important que la distinction entre serment de fidélité prêté par des sujets ou des vassaux d'un côté, traité conclu entre rois de l'autre. Et c'est seulement une fois qu'on a fait cette observation qu'on peut passer à la question de l'étymologie. Pendant longtemps, on a cru que le mot assyrien « AD » était un emprunt à l'araméen, c'est ce que vous trouvez encore chez Parpola, parce que le terme apparaît en araméen à la même époque que dans les textes assyriens, et on sait à quel point la culture araméenne a pénétré le monde néo-assyrien. Mais on n'avait pas d'argument très fort pour déterminer si l'emprunt était un emprunt des Assyriens aux Araméens ou le contraire. Et dans sa contribution, qui était vraiment superbe, au mélange Paul Garelli, Jean-Marie Durand avait proposé que le terme de AD, en réalité, soit le même mot qu'un autre, que ce que les dictionnaires ont traité de manière séparée comme un autre mot, adum, et qui a été traduit comme devoir, tâche à accomplir. Et Jean-Marie Durand a proposé que ce soit exactement le sens du mot adé, c'est le devoir, la tâche à accomplir, parce que on s'y engage, que l'on soit un sujet du roi, un vassal du roi, ou qu'on soit un autre roi, il y a la même notion d'engagement à accomplir quelque chose. Et j'ai pu voir que dans son article tout récent, Jacob Lauwinger, donc, qui a édité le texte « Découvert à Tel Teinat » dont je vous ai déjà montré des photographies, qui a été découvert in situ dans un temple, hein, qui correspond exactement à ces vassal treaties d'Assaradon, il a repris toute cette question et dans sa conclusion, eh bien, il s'est finalement rangé à l'avis de Jean-Marie Durand. Donc je pense que, même si tout le monde n'est pas encore prêt à le suivre, je pense que c'est une conclusion qui est excellente. Alors, dans les traités, enfin, dans les textes d'AD, il faut prendre le terme plus généralement, on a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours présents, qui sont parfois dans un ordre différent, mais voilà le tableau que Simo Parpola a présenté en prenant comme base le texte le plus long, le numéro 6, qui est précisément celui des Vassal Treaties d'Assaradon. Et vous voyez que tous les éléments figurent dans ce texte-là, et par rapport à ce texte, eh bien, il note avec un plus la présence de tel ou tel élément, avec un moins l'absence de tel ou tel élément, et avec un blanc le fait qu'on ne peut pas savoir parce que la partie correspondante de la tablette n'est pas conservée. Et vous voyez par conséquent qu'on a les éléments suivants. On a d'abord un préambule qui, à l'époque néo-assyrienne, identifie systématiquement les deux parties. La formule standard est AD, SHA, A, ici, B, c'est-à-dire donc traité ou pacte de loyauté de A, le roi assyrien mentionné en tête, avec B, donc l'autre partie. Et ce préambule donc semble obligatoire puisque tous les textes dont le début est conservé en possèdent un. Et plus tard dans le texte, le document s'autodésigne de manière abrégée comme Adé-Sha-A, autrement dit, pacte de A, c'est-à-dire le roi assyrien. Donc celui qui est le plus important, bien sûr, c'est le souverain assyrien par rapport auquel on s'engage, qu'il s'agisse d'une relation inégalitaire ou égalitaire. Vous avez ensuite alors, les empreintes de sceau, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, je n'y reviens pas. Vous avez les témoins divins, et dans cette liste, les dieux assyriens précèdent les dieux des autres parties. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lettre dans laquelle on nous dit que les dieux viennent pour le traiter. Et donc, Simo Parpola commente en disant « Les dieux du traité étaient au moins en théorie présents lors de la cérémonie du serment sous la forme de leur statut ou autrement. » Donc on retrouve pour l'époque néo-assyrienne exactement le même problème que celui que nous avions rencontré pour l'époque paléo-babylonienne. On ne sait pas exactement comment les dieux sont présents, statut, symbole. Ensuite, on a la formule de serment ou adjuration. Et là, il y a un élément très intéressant parce que on retrouve exactement la même formulation que dans les textes d'exorcisme contemporains, d'où la remarque très intéressante de Parpola qui nous dit « On a l'impression que les rois assyriens approchaient leurs partenaires dans un traité, il s'agissait le plus souvent d'étrangers et d'anciens ennemis ou d'ennemis potentiels, exactement de la même manière que s'il s'agissait de démons, à traiter avec les méthodes qui ont été testées et de manière positive par ce qu'il appelle la science domestique, c'est-à-dire l'exorcisme. » Donc là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. On y reviendra plus tard à propos des malédictions. Vous voyez que si l'on suit toujours l'ordre des vassal treaties, il y a ensuite un petit rappel historique, mais si vous regardez sur cette ligne, vous voyez qu'il n'y a que les textes numéro 6 et 10 dans lesquels on trouve cela, et dans les deux cas, c'est extrêmement court. Donc là, rien à voir avec les préambules historiques des traités hittites qui sont souvent très très développés. On a ensuite ce qu'il appelle les stipulations du traité, ce que j'ai appelé les clauses. On verra le détail. Et puis, il y a ce qu'il appelle la clause de violation, qui est juste avant les malédictions. Et Simon Parpola avait hésité pour savoir si c'était un élément qui devait être considéré comme ayant un statut particulier ou pas. Eh bien, il a hésité, page 41 de son introduction. Il me semble que les textes de Tel Eilan qui ont été publiés désormais montrent clairement que cette clause n'a pas de statut particulier, mais c'est en effet la dernière des clauses et elle fait le lien avec les malédictions. On aura l'occasion de le voir en détail. Alors, on a ensuite donc ce qu'il appelle les malédictions traditionnelles. On a ensuite éventuellement dans deux textes ou trois ce qu'il appelle un vœu, donc une bénédiction pour celui qui remplirait ses engagements. Ensuite, on a un deuxième type de malédiction, mais là encore, je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, à la fin, on voit qu'il y a deux cas où vous avez un colophon qui définit la nature du texte et une date. Mais vous voyez qu'il n'y a qu'un autre texte où on voit que cet élément manque. Pour tous les autres, eh bien, comme c'est la fin de la tablette, statistiquement, c'est là où vous pouvez avoir le plus de cassures, donc ça n'est pas conservé. J'avais envisagé de voir clauses de nature politico-militaire aujourd'hui, mais vous avez vu que j'ai pris le temps de développer certains points de sorte telle que je vais juste commencer ce que je vous avais annoncé à propos des clauses politico-militaires et nous rentrerons dans le vif du sujet seulement la semaine prochaine. Donc ces clauses, finalement, c'est le cœur même de ces textes, puisqu'on nous dit à quoi s'engageaient les gens qui prêtaient serment. Un élément que j'aurais dû mentionner la semaine dernière, parce que ça relève des caractéristiques externes, c'est le fait que ces clauses, dès l'époque paléo-babylonienne, sont séparées par un trait supplémentaire, et donc, heureusement pour nous, je dirais, les scribes les matérialisent, les individualisent. Alors nous rajoutons des numéros pour nous y repérer, ça n'était pas leur cas, mais c'est quelque chose de très heureux, en particulier lorsque vous avez affaire à des documents cassés, parce que vous pouvez vous battre en vous disant, voilà, de tel endroit à tel endroit, j'ai une seule clause et je dois trouver l'unité de sens de cet engagement. Et c'est un des points sur lesquels je regrette un peu que Jesper Heidem ne se soit pas battu davantage, parce qu'il y a un certain nombre de clauses dans les textes de Leilan où, si vous partez du principe qu'on doit avoir un engagement de telle ligne à telle ligne parce qu'on a une ligne de séparation avant, une ligne de séparation après, eh bien, on a donc une unité de sens. Ceci relève donc des caractéristiques externes. Deuxième remarque, qui cette fois relève des caractéristiques internes, là, l'aspect linguistique de ces engagements. Il s'agit de promesses qui sont positives ou négatives. Je m'explique, celui qui jure s'engage soit à faire quelque chose, soit au contraire à ne pas faire quelque chose, et la langue acadienne a des manières particulières de noter cela, qui varient selon les époques, éventuellement même d'un texte à l'autre. De façon surprenante, un texte de Tel Eilan n'est pas formulé de la même manière que les autres. Je ne rentrerai pas dans ces détails purement linguistiques, et donc nous verrons l'examen des clauses de manière thématique. Alors, rapidement, pour l'époque paléo-babylonienne, Jesper Heidem avait réunit les clauses sous six rubriques, le but même du traité, les clauses de non-annulation, la coopération militaire, la loyauté politique, ce qu'il appelle simplement les vassaux, et finalement la rubrique traitement des citoyens, j'aime pas le terme, il s'agit des sujets, on est dans des royautés, mais peu importe. Le problème de cette analyse, c'est qu'elle ne rend pas compte de l'ordre dans lequel les thèmes apparaissent dans les textes, et c'est regrettable, parce que, selon les cas, on a des enchaînements de clauses qui sont identiques ou, au contraire, qui sont différents, et il faut bien avouer que la logique de rédaction ne nous apparaît pas toujours clairement. On verra la semaine prochaine des exemples d'enchaînements analogues d'un texte à l'autre. Le même travail avait été fait antérieurement, d'ailleurs, par Simo Parpola dans son ouvrage. Et donc, vous voyez qu'il distingue toute une série de clauses, la loyauté à l'égard du roi assyrien, l'obligation d'information, la définition des relations à l'égard d'un ennemi commun, la coopération militaire, l'extradition de rebelles ou autres, un certain nombre de règles commerciales, la reconnaissance d'un représentant du roi assyrien, l'acceptation d'Ashur comme dieu, la non-violation mutuelle des clauses et éventuellement à la fin, mais il n'y a que trois textes qui le documentent, des concessions assyriennes. Le dernier point que je voudrais mentionner pour aujourd'hui, c'est la réponse à une question qui m'a été posée la semaine dernière. Est-ce qu'il existait des clauses secrètes ? Alors, je dirais que, par définition, on pourrait répondre que ces clauses secrètes, on ne doit pas les trouver par écrit, et donc que je ne peux pas répondre. Eh bien, ce n'est pas si simple. Pourquoi cela ? Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait eu des clauses secrètes qui n'aient pas été mises par oral, mais que, de manière rétrospective, dans des lettres, on fasse allusion à de telles clauses, en disant « Et tu sais bien que tu avais aussi promis telle chose secrètement. » Théoriquement, ça n'est pas du tout impossible. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons de fait des lettres qui font allusion à des instructions secrètes que le roi a données à tel ou tel de ses messagers. En revanche, nous n'avons, pour l'instant, aucune allusion à une clause secrète d'un accord qui aurait été passé avec un autre roi. Voilà l'état du dossier, et donc nous rentrerons dans le détail de toutes ces clauses la semaine prochaine.